Interview.
2 jours.
Bonjour, interview sur RDIWA. Aujourd'hui, une présentation du programme de la 24e édition des rencontres de l'écologie au quotidien avec pour titre « Se relier, rêver, résister ». Autour de notre table, donc, nous avons Claude Verret, bonjour.
Bonjour aux auditrices et auditeurs.
Et donc vous êtes ici pour nous parler de la programmation de cette édition. À votre côté, nous avons Estelle pour l'organisation et la gestion bénévole.
Oui, bonjour, bienvenue.
Bonjour. Et Joël.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
Et vous, vous vous occupez de la logistique de cette organisation.
Ouais,
et puis, pour le côté presse, nous avons Michel Léon.
Bonjour à tous. Merci de votre accueil.
Pour le Dauphiné Libéré. Et moi-même, pour RDIWA, Yves Glorian. Le titre de cette année, Se relier, rêver, résister, quelle inspiration vous a donné ce titre ?
Ce titre, il est venu un peu tardivement, mais le travail qu'on avait fait pendant un an, quasi, s'est imposé. Se relier, ben, on est dans une période où les dissensions, les polarisations sont évidentes, que ce soit au niveau social, les inégalités, que ce soit au niveau politique, que ce soit à beaucoup de niveaux, même au niveau géostratégique. Et on pensait que se relier, c'était fondamental, se relier aux autres, bien évidemment, se relier à soi-même aussi, parce que des fois, on a tendance à oublier ce que nous, on a au plus profond de nous-mêmes, et se relier à tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est-à-dire le monde associatif, c'est un peu le challenge de l'éducation populaire, de faire du lien social, mais se relier aussi à la nature, à tout ce qui est vivant. Et on verra en développant le programme tout ce qui a de lien avec la biodiversité. Rêver, on a besoin de rêves aujourd'hui. Il y avait un très bon texte de Sadi qui disait « On n'a plus besoin dans notre système économique, on n'a plus besoin d'éléphants, on n'a plus besoin de poètes ». Le système technocratique, le système économique, le système qu'on met en place n'a plus besoin de rêveurs. On pourrait les éliminer, ça marcherait très bien au niveau économique. On veut insister sur cette vision un peu spirituelle des choses qui est fondamentale dans les civilisations. Et résister, je crois que là, c'est fondamental parce que c'est l'histoire de ce territoire. C'est l'histoire aujourd'hui où les attaques sont de tous les côtés. On le voit au niveau de l'information. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a la moitié des informations qui sont à peu près fausses aujourd'hui. Donc résister à la désinformation, résister à l'agressivité, résister aux injonctions, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, tout le monde est dans une forme de résistance. On le voit aujourd'hui sur les paysans, à bonne ou à mauvaise raison, mais on est dans une résistance. Et aujourd'hui, face à ce qui se passe, une société qui se durcit, qui se brutalise, nous devons résister comme on l'a résisté à d'autres périodes et que les anciennes nous ont très bien indiqué.
Du 27 janvier au 1er février, auront lieu des conférences, des ateliers, des sorties de projection aussi. Et fameux bal folk, mais avant tout, ces conférences seront aussi pour le public des outils pour mieux comprendre la société. Et pour cela, vous invitez diverses personnalités.
Il y a des thèmes généraux pendant ces 5 jours, 6 jours maintenant, je crois, qui sont assez prégnants. Alors, le fait qu'on démarre sur le mardi avec Jean Giono, c'est aussi pour se remettre dans cette ambiance et de rêver et de résister. Je ne ferai pas l'histoire de Jean Giono, comment il a eu la traversée, la dernière guerre, mais on est dans cet esprit-là. Et puis, de retrouver cette façon, comment la littérature, c'est un peu le rêve, comment la littérature nourrit aussi aujourd'hui nos engagements. Ça, c'est le premier jour. Après, il y a 2 ou 3 thèmes qui sont fondamentaux, qu'on va trouver en diagonale et en transversalité, absolument sur tout le programme. Un problème, c'est l'alimentation. Alors, on travaille beaucoup sur la sécurité sociale de l'alimentation avec d'autres structures, avec le silo, avec Laura Marcelli. Et donc, on verra comment ça va. Il y a 3 thèmes sur l'agriculture, l'alimentation et les fermes. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental pour le monde rural, c'est fondamental pour le DIWA. C'est fondamental parce que ça touche à la santé et ça touche au quotidien des habitantes et des habitants. Et là, on peut toucher sur des sujets qui sont prégnants au quotidien. Et donc, cette autonomie ou cette souveraineté alimentaire dont on parle, Ce sera l'avenir peut-être. Demain, on verra, mais sur les accords qui vont être passés sur le Mercosur, on va voir comment on va arriver, ou le gouvernement, ou l'Europe peut-être, puisqu'elle est en train d'annuler son Green Deal, on va voir comment ils vont détruire les derniers agriculteurs et comment le génocide paysan va continuer avec ce système capitaliste en place. Un deuxième thème, c'est l'eau. L'eau fondamentale. L'eau, on a des problèmes d'eau sur le territoire. Je ne les passerai pas tous en revue, parce que autrement, je vais monopoliser la parole. Mais l'eau, sur le sujet de la... C'est un sujet que tous les étés, on touche du doigt, ou plutôt, on touche à sec, la rivière Drôme, à certains moments, en particulier sur les assecs entre Cray et Livron. Et on ne sait pas trop comment ça va se tourner. Les Indiens Kogi étaient venus sur le territoire il y a quelques années. Ils avaient dit, vous allez avoir plusieurs sujets prégnants, vous n'allez plus avoir d'eau, vous allez avoir du feu, et la forêt va disparaître. Ce qui était un bon diagnostic, parce que les chercheurs et les scientifiques ont fait à peu près le même diagnostic. Et donc, de prendre à bras-le-corps ce problème de l'eau, de l'usage de l'eau, de l'utilité de l'eau, je ne parle pas du partage, hein, de l'utilité de l'eau quand on arrose des choses inutiles qui sont du maïs ou des céréales qui vont aller à l'exportation, ça présente, ou des agrocarburants, ça présente absolument aucun intérêt. L'utilité de l'eau et finalement comment on va se réapproprier à un certain moment la rivière. On travaille beaucoup avec d'autres structures sur la labellisation de la rivière, sur la reconnaissance des droits de la rivière, ce qui s'est fait sur d'autres pays, avec d'autres peuples. Donc on va travailler énormément sur ce sujet, c'est même un sujet d'avenir, beaucoup de territoires, on travaille aussi avec le parc des Bauges là-dessus, beaucoup de territoires sont en train d'innover, de donner des droits à ce qu'hier on prenait pour des mines, c'est-à-dire on allait puiser la forêt, on allait puiser dans le sous-sol. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut plus fonctionner comme ça sur la prédation perpétuelle de la planète, et donc on va insister beaucoup là-dessus.
Ce que je voudrais signaler, enfin, quand on a eu accès, on vous en remercie, au programme un peu avant tout le monde. Et là, ce matin, c'est quand même l'occasion de donner de s'apercevoir à quel point ces journées fondent ce territoire. On aborde avec ces journées toutes sortes de sujets. Il y a la rivière, il y a les parents, il y a le quotidien, il y a la paix, il y a l'apaisement. C'est assez impressionnant de voir tout ce puzzle de sujets que vous abordez pendant ces 6 jours. Il y a vraiment tant d'événements, on est un peu surpris de voir tous ces sujets que vous allez toucher.
Est-ce que je peux... Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que si on a cette profusion d'événements, c'est parce que depuis des mois, c'est un groupe de bénévoles qui prépare la programmation. Et que quand on met un groupe de 10 à 15 personnes autour d'une table pour réfléchir à la prochaine édition, eh ben on a toute cette intelligence qui arrive et toute cette créativité. Donc c'est ce que ça produit. Alors toutes les fois on dit non, on va réduire, mais on n'y arrive pas parce que le champ est tellement large et qu'on est tellement créatif qu'on a envie de toujours proposer de nouvelles choses. Et puis aussi, il y a aussi l'élément quand même que depuis le départ, les rencontres, elles s'appuient sur 3 piliers. Et que donc l'écologie sociale, l'écologie environnementale et l'écologie personnelle, et que donc on essaie d'abonder dans ces 3 directions pour construire la programmation. Donc c'est ce qui donne cette profusion, et c'est ce qui donne aussi à tout le public qui va venir une profusion de choix, et donc de pouvoir construire chacun et chacune son itinéraire dans ces 6 jours de rencontres.
Oui, parce que c'est vraiment ce qui apparaît quand on a l'étendue de ce programme, c'est la profusion. On commence par exemple, Claude n'en a pas parlé, mais la projection de Soulèvement, qui est un film qui va sortir en première au mois de février, qui sera déjà avant pour parler de toute cette thématique de la résistance, des mouvements populaires. Ça va se terminer aussi par la résistance, entre autres, les résistances locales, les résistances globales. C'est tout azimut, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant, jusqu'à la fabrication de lessive avec de la cendre. Il y a un atelier, moi j'ai retenu ça, et un atelier du quotidien. Voilà.
Oui, et en plus, ce qu'on permet aussi, c'est à des bénévoles d'animer et d'organiser des interventions. En fait, le but, c'est la rencontre, et c'est pour ça que ça s'appelle les rencontres de Die et de la Biovallée, c'est de pouvoir rassembler des intervenants, des bénévoles, des hébergeurs, de tout type de personnes, et justement d'avoir toujours à l'esprit d'accueillir tout type de public aussi. et d'être aussi accessible à des gens qui ont moins d'argent, qui peuvent aussi venir en participation consciente, et d'aider aussi des bénévoles à monter en compétences, et donc d'apprendre à faire une intervention, à proposer un atelier, de les accompagner toute l'année, parce qu'en fait, on a des bénévoles, et je tiens à les remercier, qui sont là au moins une dizaine sur toute l'année pour organiser ce programme, comme disait Joël. Et puis, du coup, on a une centaine de bénévoles pendant les rencontres qui sont hébergés, qui sont nourris et surtout accompagnés. C'est vraiment une expérience assez extraordinaire. Il y a une espèce de magie où, en plein cœur de l'hiver, on a cette chaleur, des repas bio qui sont proposés, chauds, locaux et de bonne qualité, et des gens qui viennent comme ça, du coup, se mettre au chaud, rencontrer des gens. C'est vraiment une très chouette ambiance. Donc, on remercie vraiment tous ces hébergeurs, tous ces bénévoles qui viennent pour que, sans eux, on ne pourrait pas faire cet événement.
Alors, par rapport à cette proposition, je reviens sur ce titre, rêver, donc il y a aussi peut-être des propositions dans ce programme qui permettront d'être surpris, d'avoir de nouveaux repères peut-être.
On essaye chaque année d'innover, d'avoir d'abord des nouveaux intervenantes et nouveaux intervenants, et puis des sujets. On a très peu abordé, par exemple, les droits. On parlait tout à l'heure des droits qui sont alloués à la forêt en Bolivie ou en Colombie, de droits sur la rivière en Nouvelle-Zélande. En France, on a les îles Loyauté, dont on a reconnu des droits à cause des tortues qui étaient extrêmement fragiles à cet endroit-là. Mais en définitive, c'est un nouveau champ d'exploration, c'est un nouveau champ d'innovation au niveau de l'imaginaire. Et on est en train de modifier la démarche démocratique. Au niveau de la démocratie, il y a de quoi rêver aussi, parce qu'on est bien installé dans une démocratie depuis 200 ans. Et en réalité, on s'aperçoit que par l'abstention ou par les votes extrêmes, on n'est plus tout à fait dans une démarche où on implique les habitantes et les habitantes. Donc on aura deux temps où on va rêver d'une autre démocratie avec Pierre Leroy et avec Fanny Lacroix. Pierre Leroy, qui est président de la communauté de communes du Briançonnais, Fanny Lacroix, qui est maire de Châtel-en-Trièves, donc des voisins, qui ont inventé une démocratie du quotidien, une démocratie active, avec tous les habitantes et les habitants. C'est une façon de rêver aussi notre territoire demain, et je pense que tout le monde pourra s'approprier ces façons d'évoquer la démocratie au quotidien. Je me rappelle quand on avait fait venir Fanny Lacroix, il y a 6 ans exactement, on l'avait fait intervenir à l'abbaye de Valcroissant, et derrière, il y avait 4-5 femmes qui avaient dit « Moi, je m'engage demain dans la nouvelle municipalité ». Donc, ça donne une dimension supérieure, c'est-à-dire, à un moment, il peut y avoir des fragilités ou des moments où on se dit, moi, je n'ai pas les qualités pour y aller. Elles avaient donné à ces femmes l'impulsion pour aller au combat d'une certaine manière. Et c'est des moments précieux dont on a besoin sur les territoires pour passer d'une sorte d'anxiété ou de déni ou d'épuisement à une vision optimiste de l'avenir. Pas une vision béate, mais on a vraiment besoin demain de reprendre la démocratie en main, à bras-le-corps, notre avenir à bras-le-corps, le territoire à bras-le-corps.
Est-ce que, justement, vous avez penser cette programmation aussi en fonction du contexte des municipales qui arrivent? Est-ce que ça vous a influencé ou pas?
Bien évidemment, et là je viens de parler de Fanny Lacroix, c'est une évidence. Elle est vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France. Elle a fait un travail assez formidable sur Châtel-en-Trièves de mise en dynamique de tous les habitantes et les habitants. Un village qui était en train de péricliter, l'école devait fermer. Et donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sur ce territoire? Et donc elle a mobilisé tous les habitantes. Elle a fait la fusion de deux communes, Saint-Sébastien et Châtel-en-Trièves, et arrivée avec cette dynamique-là, elle est arrivée à sauver l'école, et puis derrière ça, mobiliser les parents d'élèves pour ouvrir une épicerie, pour faire une place publique, enfin tout un travail assez formidable. Il faut lire son livre, La démocratie au village, hein. C'est vraiment un bijou, parce que vous le lisez en une nuit, grosso modo, et c'est d'une beauté magnifique, d'une beauté. On ne l'a pas choisi au hasard, parce qu'on sait que ça va donner du souffle à ce qui se passe sur ce territoire, sur cette commune. Bien évidemment, quand on invite Pierre Leroy, qui a mis en dynamique tout le pays du Briançonnais dans cette démarche de transition écologique, transition énergétique, autour de toutes les mobilités, du tri des déchets et tout, il montre que sur des territoires, quand on prend vraiment les choses à la base, avec les habitantes et les habitantes, on peut le faire, on peut le faire. Ça ne reste pas de la théorie, ça s'inscrit dans des pratiques du quotidien des habitantes et des habitants. Et quand les habitants et les habitantes, ils mouillent la chemise à faire les choses, ils sont beaucoup moins critiques, ils sont beaucoup plus dans le faire. Et donc, c'est la bonne solution, c'est la démocratie au village.
Je me tourne vers Estelle. Ce travail sur le bénévolat, c'est aussi un travail de toute une année. Comment s'organise l'écologie au quotidien, sa préparation et dans sa conviction aussi, puisqu'il peut y avoir aussi un rassemblement hétéroclite avec des points de vue plutôt plus ou moins divergents aussi. Et ça, c'est aussi cette notion de relier.
Oui, alors on commence l'année un peu fort en janvier avec vraiment du plein temps pour pas mal de bénévoles. À partir de mi-janvier, on est vraiment une vingtaine sur le front. Et puis à partir du 23 janvier, on est à peu près 60. Et là, on est vraiment... on ne sort pas de la salle polyvalente parce que c'est le lieu d'accueil et on est vraiment dans une ambiance de solidarité, de joie, je trouve, qui est vraiment chouette. Et puis après, en février, on fait une pause. On n'a pas d'infolette d'ailleurs pour février parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir remonter. Et en mars, on commence déjà à prévoir la programmation. Du coup, on a pas mal de gens qui ont demandé et en qui on n'a pas pu répondre positivement. On essaye de retrouver leur... on reprend toutes les demandes et on essaye de les programmer pour l'année prochaine. On a également envie, les premiers vendredis du mois, d'organiser à l'ESCDD des temps sur l'écologie avec plusieurs associations. On avait normalement notre film du mois et là, on aimerait vraiment l'ouvrir à des conférences, à des ateliers, à aussi des films débats, mais avec d'autres associations et en partenariat avec l'ESCDD. Et puis, en juillet-août, on est un peu en pause aussi. Et en septembre, on recommence à vraiment... c'est vraiment le moment où on fait 4 mois, où on a besoin de beaucoup travailler dessus. Et on a une chouette équipe de communication. On a une chouette équipe aussi de programmation. Et cette programmation, je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce qu'elle est prise, comme tu disais, Joël, par une quinzaine de personnes. Et ce n'est pas évident de faire une programmation à plusieurs. Et on y arrive quand même plutôt bien. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a une belle diversité.
Sur comment on devient bénévole dans l'association, c'est que on peut commencer à des tas d'endroits, en fait. On peut directement entrer dans la programmation parce qu'on est inspiré pour proposer quelque chose dans la programmation. Et puis, on peut aussi, tout simplement, et c'est très nécessaire, dire « Moi, je veux bien venir faire la vaisselle pendant 5 jours, 2 fois par jour. » Et ça, c'est une mission importante. Et donc, toutes les tâches sont intéressantes et chaque personne a sa place. Et c'est important pour que tout fonctionne, c'est que chacun soit à sa place, quoi. Et ça, c'est très chouette de se sentir considéré aussi à tous les niveaux d'investissement.
Oui. Il y a aussi cet aspect logistique dont vous avez la tâche, Joël. C'est peut-être aussi d'aller vers les structures qui existent sur le DIWA, sur DI, pour en place cette machine qui est ce son.
Alors, c'est pas une machine, c'est un organisme vivant, oui, on va dire, mais qui a plein de tentacules et de réseaux de fonctionnement. Alors oui, c'est vrai qu'on peut faire un petit focus sur les partenaires, parce qu'ils sont très nombreux. Alors, je ne vais pas les citer, ils sont tous cités dans le programme qui va sortir dans quelques semaines. Mais on peut quand même citer ceux qui ont participé à la programmation. C'est bien sûr le cinéma Le Pestel, c'est bien sûr le théâtre Les Airs, c'est la médiathèque, c'est BioVallée, c'est la LPO, c'est Coditer... et j'en oublie, certainement. Et après, il y a les partenaires qui nous aident à réaliser les rencontres. C'est bien sûr la ville de Die qui aide à la réalisation des rencontres. C'est le département. Et puis après, c'est aussi des structures qui hébergent les événements, comme l'école Notre-Dame, comme le Trobaritz, comme le SCDD, comme Café Andarta. Et puis vous, RDIWA, qui participe aussi pendant les rencontres, à venir faire des interviews des personnes qui sont intervenantes. Et c'est extraordinaire parce que les podcasts que vous publiez ensuite, nous, on les remet sur notre site et ils sont vraiment valorisés tout au long de l'année. Et ça, c'est très chouette.
Mais on a l'impression que c'est tout le territoire qui est en mouvement pendant ces journées. Il y a une animation, une effervescence. Ça arrive à être géré, tout ça. Comment ça se passe ?
Eh bien, j'aurais du mal à dire comment ça se passe en disant en premier on fait ça, en second on fait ça. Ça, j'aurais vraiment du mal parce que je crois que c'est l'expérience des 24 ans qui permet ça. Parce qu'en fait, ça se tisse toute l'année, quoi. Parce que, eh ben voilà, on va croiser des gens sur le marché qui font partie de ce réseau. On va en parler en juin. On va dire, ah oui, voilà, on est déjà dans la programmation. Et puis, il y a la participation aussi d'écologie au quotidien, au conseil d'administration d'un certain nombre de structures qui fait qu'il y a une présence sur le territoire qui est active tout au long de l'année. Et donc, au moment de mobiliser, finalement, tout s'agrège assez vite et assez facilement.
L'ébullition se met en place.
Parce que ce qu'on peut dire quand même, c'est les retours qu'on peut avoir, et à tous âges. Hein, on peut aussi dire qu'il y a quand même un intergénérationnel on aimerait qu'ils soient encore plus marqués en direction des jeunes, mais quand même, il existe. Il y a quand même la notion de « en janvier, on se retrouve ». Et que c'est vraiment des personnes qui réservent cette date-là pour être là, parce qu'il y a la mémoire des années précédentes, de cette espèce d'effervescence collective qui existe, et puis aussi de la magie de ce qui se passe avec les intervenants qui sont là. Enfin, quand on est 350 à écouter un intervenant qui vient nous bousculer, c'est pas la même chose que de lire son livre dans son salon, chacun tout seul. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de l'essence des rencontres. Donc voilà pour les partenaires. Et puis après, Estelle l'a déjà dit, mais c'est quelque chose qui se fabrique dans la joie, et je vais rajouter, et dans la sueur, parce que c'est du travail.
Voilà. Je reviens maintenant sur cette notion de résistance. Elle nécessite parfois des références ou des jalons, en quelque sorte, pour pouvoir se situer. Est-ce que dans ces rencontres sont proposées ces références ou des guides ?
Alors, il y a plusieurs thèmes qui abordent ce sujet-là. Je le redis, mais l'introduction avec Giono est quand même, qui était un militant pacifiste, qui, dans cette période-là, a eu à subir deux incarcérations, tant pour d'un côté que de l'autre. C'est un moment précieux. Et aujourd'hui, le pacifisme est dans une position très délicate, hein, vis-à-vis de la guerre en Ukraine et d'autres sujets. Donc, c'est un sujet qui sera abordé. On a un temps là-dessus avec le film. On a choisi un film qui s'appelle « Soudain, souviens-toi ». Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Gaza et de l'Ukraine, mais on a choisi le Soudan parce qu'on en parle peu. Et finalement, ce qui s'y passe est bien plus terrible, d'une certaine manière, puisqu'il y a 6 millions de déplacés. Il y a eu 300 000 viols quand même. Enfin, c'est une horreur totale. Et donc, en prenant ce film, on prenait de la distance, et de la distance par rapport à nous, à nos propres convictions, par rapport à Gaza et par rapport à l'Ukraine, pour parler en définitive de l'engagement pacifiste et de l'engagement contre les guerres et d'une certaine manière, comment aussi on va accueillir ce qui se passe sur la planète. Et donc, c'est une façon un peu de faire un pas de côté sur le sujet, mais qui est dans cette notion de résistance et comment on va accueillir aussi ces gens qui sont... Ces guerres ne sont pas dues totalement au hasard. Nous, on vend des armes. Ils ne fabriquent pas d'armes au Soudan, que je sache. Donc, c'est nous qui vendons des armes. Donc, c'est nous qui provoquons ces guerres, d'une certaine manière. Nous nous en nourrissons. Et après, on va s'étonner de recevoir des réfugiés du Soudan, par exemple. Donc, en réalité, on crée les problèmes de toutes pièces, puisqu'on a détruit l'agriculture, on a détruit les infrastructures économiques, on a détruit les liens sociaux dans tous ces pays-là. Et donc, c'est normal que, d'une certaine manière, après, on soit amené à accueillir du monde. On abordera ce sujet des réfugiés, d'ailleurs, avec des associations locales, puisqu'on a un moment où on a invité le VEDAR du Val-de-Drôme, tous migrants de Briançon, qui vont venir aussi nous parler de la résistance qu'ils organisent sur le territoire briançonnais pour accueillir des personnes dans des conditions très difficiles, particulièrement l'hiver. Donc ce côté-là va être bien pointé. Et on a même un temps sur l'écologie vue du Sud, oui, avec des personnes du Congo, du Burkina Faso, de plusieurs du Cameroun, qui vont venir nous dire, oui, l'écologie, c'est chez vous, c'est comme ça, et nous, l'écologie, on la pratique au quotidien, parce qu'ils sont dans une décroissance involontaire, d'une certaine manière. Ils préservent au maximum l'eau, ils préservent au maximum, ils essayent de garder la souveraineté alimentaire, et en même temps, ils sont dans une décroissance ou une pauvreté endémique. Donc, ils sont vraiment sur ces résistances. Donc, on a peut-être beaucoup à apprendre de leur façon de vivre, parce qu'un jour ou l'autre, ça peut arriver chez nous. Si on arrêtait demain les productions agricoles, et si on arrêtait demain les transferts, je pense encore aux camions et aux bateaux qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud. Je vois bien, très bien, comment les agriculteurs et les agricultrices du Diwa devront remettre en place une souveraineté alimentaire. C'est une forme de résistance. La consommation d'eau et la sobriété en eau est une forme de résistance. Beaucoup de sujets, quand on les aborde avec un certain angle, sont des moments de résistance de résilience et de résistance.
Et peut-être qu'il y a une table ronde, moi, une table ronde ou une intervention, j'en sais rien, qui sera, je crois, samedi après-midi, qui s'intitule « Des voies d'apaisement face à la brutalisation de nos sociétés ». Est-ce que ce n'est pas un petit peu un leitmotiv dans ces rencontres, des voies d'apaisement face à la brutalisation de nos sociétés ? Il y a effectivement, quand on se balade dans ce programme, on voit qu'on est effectivement très, très intéressé par tout ce qui se passe dans le sud, dans l'hémisphère sud. Il y a à la fois des résistances locales, résistances globales, l'écologie vue du sud, ainsi de suite. C'est une vision large, en même temps, au fond d'une petite vallée.
Cette petite vallée qu'est le Diois a quand même une tradition de sobriété. C'est un territoire pauvre, faut pas l'oublier. Et comme me disait un ami philosophe à une époque, nous, on est bien placés pour parler de sobriété parce qu'on a toujours vécu la sobriété et la pauvreté dans ce territoire. Donc, on est en avance sur la réflexion dans ces domaines-là. Et je crois que le lien pour nous avec les pays du Sud, où ils sont dans cette même pauvreté et sobriété, peut être fait assez facilement. Et en même temps, on dénonce aussi, nous, on est un pays qui a été un territoire qui a été peu industrialisé d'une certaine manière. On n'a pas à démanteler des grandes infrastructures portuaires ou de grandes infrastructures industrielles comme dans certaines vallées. Et donc, on est d'un pays d'avant-garde au niveau d'une nouvelle vision du monde. Et donc, ces résistances d'Afrique et de chez nous peuvent se marier à un certain moment. On peut faire alliance. Quand au Mozambique, ils se battent contre un pipeline de Total, et nous, quand on se bat contre une autoroute dans le Trièves, par exemple, il y a quelques années, on est sur des mêmes résistances.
Ou l'histoire des forêts.
De Gardanne.
De la centrale,
Là, on aura une intervention là-dessus qui sera alimentée par d'autres structures du sud, de l'Occitanie et de PACA, qui vont venir nous parler de comment elles se mobilisent, comme les habitants du Diwa, les habitantes et les habitants du Diwa, contre la prédation de la forêt. Cette histoire de Gardanne est tout à fait inadmissible. Depuis 1953, cette centrale de Gardanne aurait dû être fermée. Elle ne produit absolument pas. Il faut à peu près 4 arbres pour qu'il y en ait un qui soit utilisé. Non, mais c'est du gaspillage total. En plus, engloutir 800 millions de subventions pour maintenir 72 emplois et maintenir une centrale qui produit absolument plus rien aujourd'hui, puisqu'elle est à l'arrêt depuis 2 mois par injonction préfectorale. Mais c'est du gaspillage des financements publics, c'est du gaspillage de l'énergie, c'est du gaspillage de notre forêt. Il y a un moment, il faut tout remettre à plat. Il y a un moment, c'est plus que des résistances. Il faut changer de vision du monde. Et là, je pense que ça fait partie du rêve. Nos forêts. Alors nos forêts, il y en a qui vous diront, les forêts, c'est une mine. Comment on va abandonner le charbon, on va abandonner le pétrole, on va aller prendre la forêt, ça repousse la forêt. Le problème, c'est qu'on prendra la forêt, mais on n'abandonnera ni le pétrole, ni le charbon. Ça, c'est la construction du système énergétique aujourd'hui. Et puis la forêt, c'est pas qu'une mine. La forêt, il y a même plein d'habitants dans la forêt. Si j'allais demander aux écureuils, aux geais et aux renards à qui appartient la forêt, ils n'auraient pas tout à fait la même réponse que les forestiers et que les promoteurs de la centrale de Gardanne. Donc on est aussi dans le rêve. C'est-à-dire que la forêt, c'est nos paysages, c'est notre imaginaire, c'est notre rêve, c'est des sous-bois, c'est la fraîcheur, c'est toute la biodiversité, c'est les sources, c'est la rétention de l'eau qui fait que ce pays est habitable. Il faut revisiter notre imaginaire, il faut rêver d'une forêt qui soit notre source de vie en définitive.
Ces rencontres de l'écologie sont aussi le travail d'un public présent qui est là pour découvrir, apprendre, peut-être aussi émettre des inquiétudes. C'est aussi ce moment-là qui est propice pour trouver les sujets d'entretien, de discussion.
Les rencontres de vie, depuis le temps qu'elles existent, elles n'ont jamais été catastrophistes ou culpabilisantes. Par contre, elles ont toujours donné envie de changer le monde. On fait toujours, dans les rencontres de l'écologie, il y a un peu 3 temps, il y a un temps où on constate les choses. On vit une planète magnifique, on vit un Diwa magnifique, on vit une montagne magnifique. Vous allez chercher des champignons, vous allez vous promener par beau temps, c'est splendide. Même par temps de brouillard, d'ailleurs, c'est splendide. D'abord, constater qu'on habite une planète qui est d'une splendeur unique, peut-être dans la galaxie, qui est magnifique. La deuxième chose, dans le temps des rencontres, on essaye de montrer qu'il y a des gens et des structures et des entreprises qui mettent à mal cette planète. Il y a certains endroits, quand on verra le film d'Artus Bertrand, il y a des endroits, des mines à l'air libre, où on croirait rentrer dans un désert. On est en train de saboter, on est en train la planète. Donc, faire le constat. Et quand on a fait ce constat, plutôt que de désespérer ou d'être dans une éco-anxiété, c'est de dire, ben voilà, on a les éléments pour rebondir. Cette planète, on la veut belle et vivante. Eh ben, on va s'engager. Et aujourd'hui, cet engagement, on le voit, on le verra avec le film de Vincent Versat et le premier film sur soulèvement. Ce cheminement nous oblige à nous engager. On ne peut pas rester les bras ballants en disant, après nous, le déluge. Donc, c'est d'avoir cette capacité à dire... On ne va pas accepter l'inacceptable. Comme pendant la guerre, je reprends le thème de la résistance. Ici même, on n'a pas accepté le nazisme et les extrêmes droites qui étaient en place. Parce qu'il y en a qui disent on parle souvent des Allemands, mais il y avait un régime quand même de 1940 à 1944 qui était un régime en France, une dictature d'extrême droite. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, on est dans cette résistance aussi. Et il faut sortir de cette aventure par le haut, avec tout le monde de préférence.
Vous attendez à peu près combien de public ?
Mais ça dépend un peu des jours, mais en tout cas, le week-end, on oscille à peu près entre 1000 personnes par jour. Et la semaine, on est plutôt sur 600 personnes. Et en fait, sur le public, on avait fait l'année dernière l'écomobilité un peu pour voir d'où venaient les gens. Et en fait, il y a vraiment la moitié qui vient de la Drôme, 25% du coup du Diwa. Et puis l'autre moitié vient de la France et de l'étranger. Donc c'est vraiment un...
Et il faut nourrir tout ce petit monde.
Voilà. Et donc du coup, et je redis, l'accès aux rencontres est vraiment libre pour manger. Vous n'avez pas besoin d'acheter un pass pour aller manger. Et donc le midi et le soir, il y a des super repas faits par deux cuisinières extraordinaires, dont une agricultrice et une, c'est son métier d'être restauratrice. Et à partir du mardi soir, on peut déjà commencer à manger jusqu'au dimanche. Et puis, peut-être, Joël, tu peux parler un petit peu de comment...
Et c'est bio et local, tout ça ?
Mais oui, tout à fait.
C'est bio et local, et les bénévoles épluchent les légumes dès 9h le matin et dès 14h au milieu de la salle polyvalente pour qu'ils puissent quand même suivre la conférence du moment. Pour aussi les rencontres, l'accueil des rencontres se fait à la salle polyvalente. Donc, il y a un bon groupe de bénévoles qui s'occupe de ça, et c'est à cet endroit qu'on peut avoir des informations si on en a besoin sur la programmation. C'est là qu'on vient chercher les dernières infos, s'il y a des modifications d'intervenants ou de salles. Et c'est là aussi où il y a la billetterie et le poste d'achat des tickets de restauration. Et la billetterie, donc on applique les mêmes tarifs que l'année dernière. On n'a pas fait d'augmentation de tarifs cette année. Et il y a un tarif réduit pour les personnes qui sont dans une situation plus difficile cette année et qui ont besoin d'appliquer le tarif réduit. C'est gratuit pour les moins de 20 ans. Sauf pour quelques exceptions qui sont avec certains partenaires. Les tickets restauration, voilà aussi, c'est possible. Et puis, on pratique aussi l'assiette suspendue ou le café suspendu pour les personnes pour qui ce serait compliqué.
Pour les 180 intervenants, il y a aussi l'aspect de l'hébergement. C'est aussi une organisation qui émane de l'habitant aussi.
Oui.
Ouais, c'est un peu depuis longtemps, on pratique l'hébergement citoyen, qui est quand même assez rare. Je crois que ça ne se fait pas dans beaucoup de festivals. Et donc, c'est des diwas et des diwas et un peu autour aussi qui hébergent des intervenants, des bénévoles. On est à peu près à 50 hébergements, hébergés en fait, entre les intervenants et les bénévoles. Et puis, il y en a qui hébergent depuis une dizaine d'années. À peu près 10 bénévoles chaque année. Donc, c'est assez incroyable, puisque en fait, c'est des rencontres aussi.
C'est des rencontres dans les rencontres.
C'est des rencontres dans les rencontres. Du coup, il n'y a jamais de hasard, on va dire. Et les intervenants, après, deviennent amis avec leurs hébergeurs. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, on doit trouver des nouveaux hébergements parce qu'ils sont tellement copains qu'ils vont directement héberger chez les gens. Donc, on est toujours à la recherche d'hébergements citoyens. Et quand on est hébergeur citoyen, on a un éco-pass offert et puis on a des repas également. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous pouvez devenir hébergeuse et hébergeur.
Parmi les 180 intervenants, Certains sont mis en avant sur votre brochure. Juliette Duquesne, Pablo Servigne, que l'on connaît bien puisqu'il est sur le Diwa, et Dominique Bourg. Est-ce qu'ils répondent aussi à ce qui est en fait ce qui fait l'actualité aujourd'hui, notamment avec cette épisodie variée, hein, que ce soit au niveau des bovins, des ovins, voire même de la vigne, hein, pour l'agriculture locale? Est-ce que ça répond aussi à ces inquiétudes?
Alors, ça répond d'autant plus à ces inquiétudes que le dernier livre que vient de sortir Julienne Duquesne est sur les résistances. Les résistances, elle est allée faire le tour du monde un peu, et du Diwa aussi, puisque dans son livre, on trouve l'Angomaille, on trouve la Carline, on trouve plein d'actions locales. Mais elle est allée au Chapias voir comment se passent les résistances paysannes. Et donc, on est dans elle va mettre en valeur, avec l'atelier paysan de l'Isère, qui est en train de travailler sur l'autonomie mécanique des paysans, donner une visibilité à ce que sont ces résistances autour de la planète. Parce qu'autant le système broie la paysannerie de partout, mais autant des résistances naissent au niveau de l'alimentation, au niveau du machinisme, au niveau de la protection des terres, au niveau de la protection des haies, au niveau de la protection des forêts, au niveau de la protection de l'eau. Et donc, elle met en valeur tous ces collectifs qui travaillent sur l'ensemble de la planète au niveau des résistances et des résiliences. Donc, ça tombe exactement sur le thème qu'on a choisi cette année. Pablo Servigne, dans son livre sur le réseau des tempêtes, est exactement sur la même logique. Prévoyant une crise probable sur certains sujets, on le verra, mais peut-être une crise même qui a déjà démarré. Hein. Peut-être que les inégalités, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Donc, à un moment, il faudra mettre en place des réseaux d'entraide. C'est un schéma qui est assez classique au niveau des moments les plus durs que l'on peut vivre. Ça a été évoqué un petit peu pendant la période du Covid, où des difficultés de communication, des difficultés de déplacement, certaines choses sont mises en place au niveau de l'alimentation, de l'échange avec les agricultrices et les agriculteurs. Et je pense que là, on va aborder des périodes difficiles. Après, je ne suis pas prophète, hein, mais on va aborder sûrement des périodes difficiles. Et donc, de mettre en place à l'avance ces réseaux de solidarité, ces réseaux de fraternité et de sororité, c'est vraiment commencer à donner l'exemple et commencer aussi à se familiariser avec des modes de fonctionnement qui peuvent être l'échange, qui peuvent être le troc, qui peuvent être de s'impliquer dans d'autres structures. On a des militants d'écologie au quotidien qui travaillent au jardin nourricier. Enfin, il y a déjà des liens qui se font. C'est le premier mot, c'est se relier. Et je pense que là, on est sur quelque chose de fondamental. Si depuis la guerre, on est dans les compétitions, les concurrences, je serai le premier, le meilleur et tout ça, je pense que le monde qui s'annonce sera un mode de coopération. On sera obligé, pour survivre, de passer dans un nouveau mode de gestion de la planète et de gestion entre nous. S'il n'y a pas de coopération, comme disent mes petits-enfants, on va tous mourir.
Bon, mais avant de mourir, il y a un bal folk quand même.
Oui, parce qu'on termine...
C'est quand même un moment crucial des rencontres.
C'est un moment qu'on apprécie beaucoup et qui est très apprécié parce que voilà, on est à la fin de la semaine, c'est le samedi soir, 31 janvier. C'est le groupe Lire Trio, c'est un trad nomade.
C'est quoi, trad nomade, ça?
Alors, dans les groupes de bal folk, trad, néo-trad, nomade, c'est, en fait, chaque fois, c'est un peu la couleur du groupe. Là, c'est quelque chose qui est présenté comme une influence des Balkans et puis autre encore. Voilà, c'est deux musiciens et une musicienne. Il y en a un d'entre eux qui est de la Drôme, voilà, qui est de la Vallée, Fabien Bûcher. Et puis voilà, ça va être. On essaie chaque année de différencier le courant, la couleur du bal folk. Donc l'année dernière, c'était très électro-trad. Cette année, c'est plus trad nomade. C'est pour un peu faire découvrir aussi au public des nouveaux courants de musique, quoi. Et ça va être très festif, ouais. Ça va bien terminer l'avant-dernière soirée.
Et ça se prépare, hein, c'est ça?
Ça se prépare parce qu'il y aura un atelier de danse folk dans l'après-midi du samedi qui sera animé par Solène Legoise, qui anime toute l'année un atelier de danse folk à Die, et qui avait connu un franc succès l'année dernière pour ceux qui veulent apprendre les rudiments des danses du bal pour être prêts le soir sur le parquet.
Partenaire principal de ces rencontres, c'est BioVallée également. Quelle est sa place dans ces rencontres? Est-ce qu'il y a une évolution aussi de point de vue peut-être différent dans l'organisation?
En général, et c'est ce que disait Estelle tout à l'heure, on essaye d'impliquer de plus en plus pour faire réseau. je repense à Pesserving, et refaire coopération, le plus en plus de partenaires. Et donc, je ne les reciterai pas, mais Bieuvallée est un des partenaires. Quand on a créé Bieuvallée, il y a 24 ans, 25 ans, avant de créer l'association, c'était un peu pour faire le prolongement des rencontres de 10, c'est-à-dire qu'avoir une, à l'échelle du territoire, d'une centaine de communes, d'impulser cette transition, transition énergétique, transition écologique, transition démocratique, transition sociale. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, on récolte le retour, puisque Bieuvallée a les outils et les personnes pour pouvoir enrichir des programmations. Donc, pour nous, c'est un vivier dans lequel on peut puiser. Donc, on aura plusieurs temps qui seront animés par des salariés de Bieuvallée qui vont venir, que ce soit sur le mercredi, sur le marché, pour le temps où les associations de transition du DIWA, je pense à Dromolib, je pense à DIWA, je pense à Biclou, etc., vont pouvoir présenter, s'il fait beau, sur la place du marché, toutes les transitions locales et donner une visibilité, parce que finalement, on donne plus de visibilité souvent aux outils destructeurs et aux entreprises destructrices qu'aux alternatives. Donc, on va avoir cette visibilité, c'est organisé par Bieuvallée. Il y aura d'autres temps sur la rivière, parce que Bieuvallée travaille énormément sur la rivière aussi et sur l'eau. Donc, il y aura un temps qui sera animé par Bieuvallée, avec une chercheuse de Bieuvallée, et un temps sur l'agriculture. On a la chance d'avoir 27 administrateurs et administratrices assez formidables. Et donc, il y a un film qui a été fait sur le DIWA, d'ailleurs, à Bellegarde-en-DIWA, la ferme de Montlahuc, au GAEC de Montlahuc. Et donc, on a un film qui sera passé sur comment voir l'agriculture de demain. Le film met en place une ferme, met en visibilité une ferme. Alors, 1000 hectares sur Montlahuc, ça paraît énorme, mais ce n'est pas énorme quand ce sont des landes et des friches pour les brebis. 1000 hectares qui ont été repris il y a 3 ans par 7 agriculteurs et agricultrices. C'est un modèle qui risque d'inspirer, parce qu'aujourd'hui, pour s'installer à la terre tout seul, que ce soit en maraîchage ou en élevage d'ailleurs, avec les contraintes que ça pose, les contraintes financières, mais les contraintes de travail physique et les contraintes financières, c'est extrêmement difficile. Si on n'arrive pas à faire que les fermes soient demain collectives, collectives volontaires, hein, je pense pas du tout au kolkhoz, mais dans un collectif volontaire, je pense qu'il n'y aura plus d'agriculteurs et d'agricultrices. Donc, c'est un exemple qu'on veut donner. C'est une résistance aussi, c'est une résistance solidaire, c'est une résistance créatrice. Et peut-être que c'est l'avenir de l'agriculture territoriale. Donc oui, on travaille beaucoup avec Bieuvallée. On s'inspire l'un l'autre en définitive. Et on est, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, on est aussi au cœur du conseil d'administration de Bieuvallée. Donc on permet de faire avancer les choses aussi sur ce territoire.
Moi, ce qui m'étonne là, en vous écoutant, c'est qu'il y a à la fois un événement qui est ancré vraiment dans la terre du DIWA, et en même temps, il y a question d'intelligence artificielle ou de problématiques très contemporaines, très modernes, presque urbaines d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'urbanité dans tout cela.
Le problème, et tu fais allusion aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle, et je pourrais parler de ChatGPT et d'autres outils qui sont en train d'envahir, et les réseaux asociaux, comme disent certains de nos élus, qui sont en train d'envahir le territoire et de confisquer pour moi. Et la démarche individuelle, la compréhension individuelle des choses, et je dirais même l'intelligence des choses. Donc c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, quand on interdit, par exemple, je regardais tout à l'heure, on interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en Australie. Les personnes interrogées disaient « mais comment je vais m'informer ?» Parce que j'ai plus de réseau, parce que ça veut dire qu'ils s'informent que sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de la désinformation, on le sait en permanence. Mais il y avait dans le même champ, les Américains, 50% des Américains n'ont jamais ouvert un livre. Bien sûr qu'on va vers l'abêtissement de la population. Donc, nous-mêmes, sur ce territoire, il y a une vieille tradition protestante où on a appris à lire dans la Bible qui était traduite. Donc, il y a une vieille tradition qu'ici, les livres, c'est magique. Dans toutes les maisons du DIWA, des natifs, il y a des grandes bibliothèques. Il y a des gens... Le DIWA, c'est l'endroit où il y a le plus d'abonnés au monde, au journal Le Monde de France, au niveau de la proportion de la population. Les DIWA sont cultivés. Les DIWA veulent prendre en force leur avenir. Les DIWA sont des grands lecteurs. Les DIWA vont ont les outils dans les mains pour l'avenir qui se présente et qui vont reprendre en main.
Et il y a un point qu'il faut souligner peut-être, c'est qu'il y a une librairie au cœur des rencontres qui a son rôle.
Parmi les partenaires des rencontres, il y a la librairie Mosaïque qui sera présente pendant toutes les rencontres et qui a un lieu, un espace librairie conséquent dans lequel on va trouver bien sûr les livres des intervenants qui feront des conférences ou des ateliers pendant les rencontres et puis bien d'autres sur les thèmes qui sont présentés pendant les rencontres. Et ça, c'est un point important dans les rencontres. Et puis, dans les autres espaces aussi qui existent dans la salle polyvalente pendant les rencontres, il y a un espace qu'on appelle des temps de bien-être, qui est animé par des locaux qui proposent des massages, de la réflexologie, en fonction de leurs compétences et de leur formation. Et puis, on a un espace gratuité où on peut apporter des choses dont on ne se sert plus et de pouvoir échanger avec d'autres objets ou vêtements qui seront proposés là. Et puis un espace enfant où on a toujours un petit espace pour que les enfants puissent, pendant que les parents écoutent les conférences, puissent dessiner, se reposer, faire la sieste, des choses comme ça.
L'avenir des rencontres de l'écologie, c'est aussi peut-être une certaine autonomie financière. Est-ce que vous vous préparez à cet aspect-là, puisque d'un certain côté, il y a une baisse drastique des financements?
Je pense que la réponse n'est pas simple. Et je pense qu'on a été habitué à la sobriété. Depuis le départ, on est un des festivals de France. Je n'aime pas trop le mot festival. Les rencontres citoyennes de 10 sont un événement qui a le moins de subventions de tous les événements possibles en France. Moi, je suis allé voir certains festivals quand M. Godin, à Marseille, organisait Science Frontières, qui était un festival sur l'environnement. Il leur donnait 300 000 euros. Je pense que c'était vraiment exagéré, mais je pense qu'ici, avec nos 5 000 euros et plus accidentellement un travail qui est fait pour les personnes âgées, avec nos 7 000 euros de subvention, on est très, très loin de cet événement et on est très, très loin de l'aide dont pourrait profiter un événement, que je le dis sincèrement, de cette qualité, de cette ampleur et qui est pérenne aujourd'hui, qui a plus à faire ses preuves. Je pense que là, il y a une faute politique des acteurs qui pensent à la transition, qui pensent à l'avenir du monde, qui pensent à l'avenir des ruralités. Je pense qu'il y a une faute politique de ne pas avoir financé cet événement à la hauteur. Donc, pour répondre à la question précise, on est habitué à la sobriété et je pense qu'on va continuer sur cette sobriété. C'est un peu aussi, ça fait partie un peu de notre ADN aujourd'hui.
C'est un peu une expérimentation de cette organisation qui peut être aussi une proposition qui peut être partagée sur d'autres endroits, d'autres territoires.
Et en même temps, cette sobriété nous implique aussi à faire vivre le territoire. C'est-à-dire que nous pourrions faire imprimer ceci. On a eu deux propositions, une à Ceylan, une au Bangladesh, où on pouvait tirer à moitié prix nos affiches et nos plaquettes. Eh bien, on a préféré le faire par un acteur local, par une imprimerie locale, même si ça nous coûtait le double, parce qu'on met en pratique ce que l'on dit.
Vous avez sorti une affiche cette année qui est assez impressionnante, enfin qui va peut-être surprendre le public avec un visuel d'une diwaz d'ailleurs, mais qui est à Grenoble.
Oui, toute la partie illustration de l'affiche a été faite par Lou Catala, qui est une diwaz, mais qui travaille à Grenoble. Et puis, on a travaillé encore cette année, pour la deuxième année, avec Studio Vivant et Arthur Doré pour la conception de l'affiche. Et c'est aussi un partenariat important pour nous, parce que ça nous amène beaucoup de créativité et de compétences qu'on n'a pas, nous, dans l'équipe. Et donc, on a créé une affiche, un flyer, et le programme détaillé est presque à l'impression.
Ça
va sortir dans quelques jours pour que vous puissiez faire votre choix de programmation par l'avance. Et surtout, allez sur le site internet écologieauquotidien.org où vous avez tous les événements qui sont repris et aussi tous les liens pour vous inscrire, pour être bénévole, pour être hébergeur. N'hésitez pas à aller visiter le site.
Je remercie Michel Léon, Claude Verret, Estelle Gilliot et Joël Vial d'être venus sur RDIWA pour nous parler donc de cette 24e rencontre écologie au quotidien.
Et merci RDIWA.
Merci RDIWA.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée
à tous.
Bonne journée.
Ah,
Thus, folks, on the cricket's wings produce the chirping vibrations which what? The cricket sounds.
Oh, God, for the month.